CFM, le mag, tous les jours,
12h, 12h30,
en Aveyron, CFM, 107.9 et 90.2.
Je vais écouter.
Et allez, bon début de semaine, bonjour tous, vous venez de nous rejoindre, soyez les bienvenus, le Mag Aveyron, santé, bien-être, pâquerette, fleurette et assiette avec Karine Justeau, nutritionniste et diététicienne intervenante en goût pour commencer, Karine avec un K, bonjour.
Bonjour David et bonjour à tout le monde.
C'est le comique de répétition, il faut le redire, voilà, je ne sais pas ce qui m'a pris, c'est arrivé là début décembre.
Voilà,
je me rappelle que la première fois qu'on s'était rencontrés, c'était certainement à la Foire Exposition de Villefranche-de-Rouergue.
Vous avez une bonne mémoire.
Et vous m'avez dit, oui mais Karine avec un K, et ça m'est ressorti là il n'y a pas longtemps. Oui mais cette mémoire, je vais vous dire, c'est une vraie maladie.
Pour que vos éditeurs comprennent bien pourquoi je ris, parce que vous parlez de cette scène à la Foire à Villefranche, mais il y a de ça au moins 10 ans.
Ah oui, c'est pas impossible.
Donc vous avez bonne mémoire, c'est bien ce que je dis.
C'est une maladie que je vous dis et vous n'avez pas trouvé l'aliment pour me guérir.
Et non, malheureusement.
Un jeu aujourd'hui,
une petite animation qui était proposée sur ce fameux salon de la Festa du foie gras, décidément, on continue d'en parler.
Fin novembre.
Et que très probablement certains de vos auditeurs auront déjà fait, donc ils connaîtront peut-être déjà les réponses. En fait, il s'agissait d'avoir une carte du monde vierge sous les yeux et d'avoir quelques petites cartonnettes d'une quinzaine, vingtaine d'aliments et de savoir les positionner sur la carte du monde en fonction de leur origine.
Super.
D'accord.
Ouais, bonne idée.
Voilà. Donc je vous soumets à ce petit jeu. Alors, bien sûr, vous ne manipulez pas, mais néanmoins, dites-moi, d'après vous, d'où nous viennent, même, je pourrais les mettre au pluriel, les petites clémentines et les petites mandarines. Alors, à l'origine, je ne parle pas d'où elles viennent aujourd'hui, forcément.
Pas du tout. Alors, en Amérique du Sud, pas
bien non
du
plus.
Tout. En Afrique, on va faire
alors,
continent par
l'Afrique,
continent.
Alors, l'Afrique, oui, mais l'Afrique...
L'Afrique du Nord,
okay. En effet. Et effectivement, elle existe, cette clémentine, cette mandarine, depuis un petit peu plus d'un siècle. Et elle est née, dit-on, on n'ira pas vérifier, en Algérie. L'histoire, en fait, commence à Oran, au début du XXe siècle. Et c'était un prêtre, en fait, qui était agronome. Il était prêtre.
Ah, c'est une manipulation, la clémentine, non ?
Non, a priori, non.
D'accord, okay.
Il était agronome, ce monsieur, donc il faisait des petites expériences. Et puis, il a semé des graines de mandarinier, et puis en poussant, eh bien, par hasard, il a vu que ça faisait des jolis fruits. Comestible. Je vous le donne dans le mille. Il s'appelait le père.
Je vous le donne dans le mille. Émile, on a dit qu'on disait
vrai,
ça quand même.
C'est vrai, mais là, pas du tout. Donc, il s'appelait le père, devinez comment ?
Le père Clément.
Eh bien, exactement.
Et voilà.
Vous avez deviné, il s'appelait le père Clément. Et donc, du coup, effectivement, le fruit s'est appelé la clémentine.
Oh, c'est mignon.
Oui,
c'est une belle anecdote. Donc, Oran, origine de la clémentine, ou plus précisément, l'Égypte, vous avez dit ?
Non, l'Algérie.
L'Algérie.
Et elle n'est venue en France qu'en 1925, et c'est en Corse qu'elle a commencé, vous savez.
Bien sûr.
Et par contre, c'est vraiment en 1970, il aura fallu attendre 1970 pour vraiment que la clémentine devienne un aliment... courant.
Bien sûr,
pour
la
nous,
clémentine corse avec ses petites feuilles, on la repère d'ailleurs.
Oui, voilà.
Je sais pas pourquoi d'ailleurs, parce que c'est plus simple, parce que c'est d'économie.
Certainement, puis c'est joli, c'est vrai que ça fait un joli. Après, je pense pas qu'il y ait une utilité plus que ça, mais ceci dit, je ne sais pas.
Clémentine, Algérie, pour situer aux origines en 1925, donc c'est arrivé en France et donc
par le père Clément, par hasard.
Vous pouvez ressortir ça le week-end prochain en société, ça fait toujours bien.
C'est ça aussi
l'utilité de la radio, c'est de repartir avec des petits quelque chose.
Dans les repas mondains, vous pouvez le dire. Allez, je vous en propose un autre.
Mais bien sûr qu'on a le temps.
Un petit avocat. Parce qu'on en trouve sur tous les étals aujourd'hui. Est-ce que vous savez d'où il tire son origine ?
L'avocat, je serais tenté de dire qu'il serait pas loin de Tijuana, cette frontière entre l'Amérique du Sud et l'Amérique du Nord, un peu dans le secteur, un peu plus Amérique du... je serais tenté de dire au sud de l'Amérique du Nord, par ici.
Oui, et ben ça s'appelle pas loin du Mexique. Tout à fait ça. Sachez que les premières pousses d'avocatiers ont été retrouvées au cours de fouilles dans les forêts tropicales du Mexique. Vous voyez ? Et il y a de ça? Est-ce que vous avez une idée de quand peuvent dater ces premières pousses d'avocatiers?
Ça remonte à la préhistoire, je suis sûr.
Ah, pas loin. Elles datent, en fait, ces premières pousses qui ont été retrouvées, elles datent de 8000 ans en arrière. Hein. Vous voyez, donc, c'est pas d'hier. Hein. Voilà. Et tout de suite, par contre, ça a été un fruit qui a été vraiment intégré dans l'alimentation des Mayas, des Aztèques. Nous, on l'a découvert il n'y a pas si longtemps que ça. Mais les populations indigènes à l'époque l'appelaient Ahua, Qualt, d'accord. Et donc, attendez, j'ai pas le bon accent, mais Ahua, Qualt, avocat, vous voyez, ça vient de là.
Vous m'en faites un beau de guacamole dans votre bouche.
Mais voilà, mais c'est pour vous dire, c'est pourquoi, parce que c'est à quoi, c'est quelque chose qui est un peu liquide, un peu crémeux, un peu voilà, hein, parce que voilà, c'est comme du beurre un peu l'avocat quand il est bien mûr. Et d'ailleurs, sachez que les gens issus de ces cultures amérindiennes, on va dire là, utilisent parfois l'avocat comme une matière grasse, c'est-à-dire que dans une poêle pour faire cuire une viande, plutôt que d'y mettre un morceau de beurre ou un petit peu d'huile, un morceau d'avocat qui fond. Ça donne bon goût à la viande et c'est très sympa, vous pouvez l'essayer. Voilà. L'avocat, c'est un fruit oléagineux dont on peut tirer de l'huile. Il est très bon pour la santé. On a quand même conscience qu'effectivement, au niveau de l'impact environnemental, quand on achète un avocat, ça vient de loin.
Oui.
Donc, même si c'est un très bon aliment, peut-être on n'en consomme pas forcément au quotidien.
C'est très juste.
On peut le manger de version salée. On disait utiliser comme une matière grasse. On peut aussi le mettre dans des salades de fruits. Hein, ça se pratique beaucoup dans ces pays-là et c'est très sympa aussi à essayer. Voilà, pourquoi pas pour les fêtes, pour avoir ce petit brin d'originalité.
Bah oui, j'étais pas mal sur la géolocalisation.
Ah, cette fois-ci, vous étiez même plutôt très bien.
J'ai peut-être gagné une petite cagette de clémentine, non? Un truc comme ça.
Eh bien, je vais réfléchir.
Non. Allez, un autre,
vite fait. Tiens. Un produit de consommation courante, la banane. Encore une fois, c'est bien l'origine que je vous demande. Hein.
Ah, punaise. C'est la banane, madame, le fruit des tropiques, tic-tic. La banane, je serais tenté de dire... aidez-moi aussi.
Ah bah
aussi.
Non, je ne vais pas vous aider quand même.
Punaise. Si ça se trouve, ça n'a rien à voir avec ce qu'on pourrait penser. Je serais tenté de dire en Afrique.
Non.
Mais c'est en Asie.
Voilà, c'est en Indonésie.
En Indonésie?
Oui, en Indonésie.
Aux origines, d'accord, okay.
Voilà, les premières. Encore une fois, l'origine.
Ouais,
hein,
oui,
je
ne
parle pas des bananes
sûr,
que nous consommons aujourd'hui.
Ouais.
Effectivement, ça vient d'Indonésie en premier. Alors, c'est pareil, il hein, y a des millénaires de ça. Et nous, on ne la connaît en fait que depuis la fin du 15e siècle, ce qui est déjà bien vieux, hein, vous me direz. Et puis, c'est arrivé d'abord aux Antilles, nous concernant. Et puis, il a fallu attendre presque les années 1900 pour que ça arrive de notre côté de l'Atlantique. Hein. Donc, vous voyez, ça a parcouru des kilomètres. Sachez quand même que c'est le fruit le plus consommé en France derrière la pomme. Alors, c'est pareil, hein, quand on mange une banane, on essaye de prendre conscience de l'impact environnemental. Voilà, ça peut être intéressant. En tous les cas, étymologiquement, le mot banane, c'est très surprenant d'ailleurs, mais c'est un dérivé du portugais et qui signifie lui-même issu de la langue arabe avec un mot qui s'appelle banane et qui veut dire doigt. Parce qu'en fait, on l'a mangé avec les doigts.
Quoi. Ah oui, hein, d'accord.
Voyez, okay. Voilà. Bon, ça vient de là. Hein, c'était juste la petite minute culturelle. J'en profite pour rappeler que la banane, en fait, le sucre qui la compose, en tous les cas, quand elle n'est pas encore très très mûre, là, voyez, pas non plus très verte, hein, mais jaune, encore bien jaune et un peu dure. Là, le sucre qui la compose est le même sucre que le féculent, en fait, hein, c'est de l'amidon, donc ça peut être considéré comme le féculent du repas, admettons. Et plus elle mûrit et plus elle devient, la peau devient noire, vous savez, et elle est un peu molle, plus là, effectivement, les sucres se sont transformés, et là, c'est un fruit. D'accord.
Petite récap, les clémentines c'est l'Algérie, les avocats c'est le Mexique, les forêts tropicales du Mexique, et donc Indonésie pour la banane. Et ben voilà, on se donne rendez-vous la semaine prochaine.
Ouh là là, on approche des fêtes.
Mais là c'est la der de l'année, là
c'est
la der de l'année, et vous savez de quoi vous allez nous un menu de fête.
Si, alors, menu de fête, pas vraiment un menu de fête, mais comment les apprécier au mieux, vous verrez.
D'accord. Rendez-vous la semaine prochaine.
Et je vous parlerai de vos fameuses pâtes au foie gras, puisque je ne l'ai pas fait aujourd'hui. Promis, la semaine prochaine.
Super. Belle journée, Karine. On retrouve votre actualité sur votre page Facebook, Karine Justeau, Diet News. Karine avec un K. La suite du programme, une rapide musique. Delphine Henneke en studio, nature rock, pâtes et mycothérapeute.
Now you this. That's respect to my car, Serge Gainsbourg, the original of the land. When they call my hobby, I laugh quietly, darling. Beauty is a thing from the heart.
Quand on me dit que je suis moche, je me marre doucement pour pas te réveiller.
Don't watch the face. The face is a thing you can erase, but beauty, beauty can take it into space.
C'est moi qui bois, c'est lui qui est mort d'une cirrhose, de tétesse par osmose, tellement qui buvait mes paroles.
This is not the race for the ugly. We are beautified.
Gueule, nous on n'est plus rien. D'ailleurs, nous les affreux. Je suis sûr que Dieu nous accorde un peu de sa miséricorde. Car...
Do we may be ugly? God has granted us some kind of forgiving. You live the life you love and you love the life you live. And I think still says it's mine to give. Love is true, love is pure. I would call the original of the man. But God has gave my musical plan.
CFM, le mag. Tous les jours, 12h, 12h30. En Aveyron, CFM 107.9 et 90.2.
Nom d'un petit chaton, deuxième partie du Mag Aveyron, santé, bien-être, fleurette, pâquerette, avec, comme annoncé, Delphine Henneke. Coucou Delphine.
Coucou.
Notre opiacé du lundi, t'aimes bien quand je le dis. Et ben voilà, je te le sers aujourd'hui. Naturopathe, mycothérapeute, tous les lundis. Santé, bien-être, quoi, plutôt dans le principe.
Tout, ouais.
Et aujourd'hui, c'est cirrhose, une belle maladie du foie.
C'est pas la cirrhose.
Bon, pourquoi?
On peut aller vers la cirrhose, mais avant d'arriver à la cirrhose, figure-toi qu'on peut passer par une première étape qui est la stéatose. La stéatose.
Oh bah dis.
Et ouais, la stéatose hépatique, en fait, c'est tout simplement la maladie du foie gras.
Avoir
un foie trop gras. C'est-à-dire, il y a une accumulation de gras dans le foie et même dans les muscles. Alors, le problème, c'est qu'avec le foie est toujours silencieux, on s'en rend pas forcément compte.
Parce que c'est un organe innervé.
Exactement. Et donc du coup, alors ça peut être soit détecté à la palpation, mais souvent après ça va être des analyses qui vont révéler en fait qu'effectivement on souffre de stéatose hépatique, ou en tout cas de la maladie du foie gras, qui est de plus en plus répandue en fait dans notre société,
ouais.
Et chez des jeunes et des moins jeunes.
Ah dingue. Voilà.
Ah ouais, dingue. Ouais. Ça va être un truc dont vous allez entendre parler vraiment tout le temps maintenant.
Comme une oie ou un canard qui aurait été trop gavé, qui aurait
Exactement.
Pris du foie, quoi. Enfin, oui,
Exactement.
Tu prends du foie. Tiens, c'est drôle ça.
Ouais. Oh, t'as pris du foie. T'as pris du foie. Mais n'empêche que c'est. Alors, c'est pas le fait de manger forcément du gras qui fait qu'on va avoir
un
foie gras.
Trop de maïs.
Mais pour le coup, le maïs, c'est quoi? C'est aussi du sucre. C'est vraiment le sucre qui va favoriser, en fait, cette stéatose hépatique. Alors, qui peut, après. Virer en fibrose et ensuite effectivement en cirrhose. Hein. Donc c'est quand même déjà se créer un truc pas cool au niveau du foie. Mais heureusement, le foie, c'est quand même l'organe phénix, c'est-à-dire
qui se régénère.
Il se régénère très bien, donc il y a toujours quelque chose à faire. Et là, pour le coup, il n'y a pas d'histoire de médicaments de ci, de là. Il faut changer son régime alimentaire, on n'a pas le choix. Donc c'est aussi une maladie qui est appelée la maladie du soda. Hein. Voilà,
Juste, la semaine dernière, je disais, parce que tu nous l'avais dit il y a très longtemps, trois lobes, ils ont une fonction particulière, les les trois lobes du foie.
Il y a, comment... plus que ça, mais non, il y a pas. On va pas détailler. On va pas détailler ça parce que le foie, si on veut faire la liste de tout ce qu'il fait, c'est énorme. C'est-à-dire, il fabrique des hormones, il en recycle d'autres, il s'occupe des toxiques, il s'occupe aussi du métabolisme du sucre, justement, qui est en cause, là, pour le coup, qui est fragilisé, hein, dans la maladie du foie gras. Alors, souvent, on peut être atteint de cette maladie du foie gras sans être forcément diabétique, mais en tout cas, déjà, avoir des analyses un petit peu, où déjà, on n'est pas en prédiabète, mais on est quand même un petit peu en hyperglycémie.
Le foie, donc, pour...
Ouais, le foie gras, ouais,
mais
le
alors,
foie gras.
Aucune alors, possibilité de s'en rendre compte, à moins de pousser un alors, peu l'analyse, de farfouiller à l'intérieur.
Soit on se dit effectivement, oula, j'ai mes analyses qui ont un petit peu changé, je commence un petit peu à avoir le taux de sucre un petit peu plus élevé, on a des triglycérides, et puis, à la palpation, on a un gros foie. On a un foie qui est un petit peu gros, les graisses se sont accumulées, et puis de toute façon, ça va... Un gros foie, ça va, il y a tout le truc qui va avec, c'est-à-dire de la fatigue, un manque d'entrain, enfin, tout ça, en fait, c'est des signes d'un épuisement hépatique, en fait, hein, il souffre, clairement, hein. Il souffre, mais on s'en rend pas compte, on peut pas, franchement, localiser. Et là, pour le coup, point de médicament ou autre, il faut vraiment soit augmenter son activité physique, ça c'est très très important, c'est-à-dire brûler un maximum de sucre et diminuer complètement en fait les glucides. Alors ça peut être, il y a des personnes, moi je connais des personnes qui sont atteintes de cette affection sans être des buveurs de soda ou des mangeurs de pizza ou voilà, sans être des gens qui se gavent de glucides, mais en tout cas des gens stressés. Qui ont été soumis à des fortes pressions en fait pendant des années, qui ont quand même oublié à des moments donnés de manger plus de végétaux que de farineux, et ont tendance à manger un petit peu de confiture ou trop sucré le matin et à manquer cruellement d'activité physique, ben ça suffit pour installer en fait déjà cette stéatose quoi, hein, voilà, ça c'est déjà on installe déjà le terrain, alors qu'il va pas forcément virer évidemment en cirrhose, heureusement, mais c'est vraiment l'excès de sucre et de sucre en tout genre, parce que même un excès de fruits, on parlait plusieurs fois, hein, j'ai parlé de l'excès de fructose, là aussi c'est compliqué pour le foie.
Il y a des gens qui mangent du miel tous les matins, c'est
ouais.
pas trop bon
ben
ça.
Non,
c'est
ouais.
une mauvaise habitude alimentaire parce que ça bombarde un peu côté.
Côté glycémie, ouais. Carrément, ouais. Hein. Côté glycémie, puis en plus, si on le mange sur du pain, mais c'est pire que tout parce que ça ralentit la digestion, ça freine la digestion de manière assez notable. Donc c'est pas une bonne idée. Le miel, c'est très bien pour se soigner, mais ça devrait pas faire partie du régime alimentaire, franchement.
Est-ce que ça marche le miel en attendant? Enfin, sur les marchés, le miel, ça a la cote.
Ouais,
hein. C'est vraiment le truc qui.
Mais
dire que c'est intégré dans une consommation plus ludique que pour des soins, comme tu nous le dis souvent.
Oui, mais parce que je pense que c'est aussi se donner un peu bonne conscience. C'est j'avale du sucre, mais bon, c'est naturel, c'est du miel.
Ah oui, il y a ça.
Exact. C'est comme on a l'impression qu'on peut manger comme ça des fruits en quantité parce que c'est sain, c'est des fruits, il y a des vitamines dedans et voilà. Mais c'est pas forcément vrai. C'est pas forcément vrai. Et puis surtout si dans sa famille on a des gens qui sont un petit peu déjà fragiles au niveau du foie, en tout cas qui ont déjà si on a des diabétiques et tout ça, on a tout intérêt à se méfier en fait aussi de cette prédisposition à ça. Donc voilà, la maladie du foie gras guette beaucoup de gens en fait de notre société, hein. C'est pas réservé qu'aux Américains qui se gavent de soda, pas du tout. Je pense qu'on a tous autour de nous des gens qui souffrent de ça, mais on peut vraiment faire quelque chose, c'est tout à fait possible, hein.
Donc c'est quoi le discours, c'est
le discours c'est éliminer.
Arrête ou on te mange pour Noël, un truc comme
mais
ça.
Mais pas du tout, mais c'est l'idée, c'est vraiment de virer le sucre et tous les sucres de manière
c'est valable pour le foie mais pour plein d'autres
choses. Ouais, pour plein d'autres choses sans avoir forcément peur. Il y a des gens qui se disent ouais, mais moi si je mange pas, je vais tomber, je vais pas être bien, j'aurai pas d'apport de sucre et tout suffisant. C'est pas vrai. Déjà, on a suffisamment de stock dans nos organismes. Et puis, on n'a pas besoin de... C'est une idée, en fait, qu'on nous a aussi inculquée qu'il fallait absolument manger des sucres lents, il faut manger du pain, il faut manger des pâtes, il faut manger du riz, c'est très important. Voilà.
Ça n'a pas été déconstruit, ça, sucre lent, sucre rapide, il y a peu de temps, par des scientifiques?
Alors, je pensais, complètement, ça fait déjà un certain nombre d'années qu'on ne parle plus en ces termes-là, mais dans le discours, en fait, des des gens autour de moi, j'entends encore ces termes-là.
C'est installé.
C'est complètement installé et je pense que ça fait partie de notre éducation aussi alimentaire à l'école et que c'est quand même ancré. C'est quand même ancré où on a cette idée de la pyramide, comme ça, avec en bas la base de céréales.
Ça n'a strictement rien à voir, mais ça peut être intéressant de te poser la question à toi. Ce repas végétarien dans les écoles, t'en penses quoi, toi, de ton côté ?
Ah, moi, je pense que c'est très bien.
D'accord, ok.
Que c'est très bien, ça n'a jamais tué personne de manger un repas végétarien, quoi. Voilà.
Ça ne va pas, pas anémier les petits ? Non.
Attends, mais c'est déjà un, c'est pas tous les jours ?
Ah non, c'est un repas dans la semaine.
Un repas dans la semaine.
C'est un sur quatre.
Je ne suis pas persuadée que partout dans le monde, et même jadis, naguère, il fut un temps, ici même, les gens mangeaient de la viande ou un aliment protéique animal tous les jours à chaque repas ou en tout cas tous les jours de leur vie. Ça, je crois pas. Je crois pas. Donc,
c'est plutôt pas mal, toi, tu dis.
Moi, je trouve que c'est plutôt pas mal. Et puis c'est aussi une ouverture. Voilà. Moi, je trouve ça très bien. Après, il y a des gens qui disent oui, mais on devrait pouvoir avoir le choix. Blablabla. Ça va, c'est un repas. On n'impose pas un truc permanent.
Ouais, voilà. Y a plein de choses qu'on pourrait imposer parce que ça fonctionne aussi comme ça. Je pense au tri des poubelles, par exemple, sac noir, tri sélectif, exactement. Le verre. On retrouve encore des bouteilles de verre dans le sac noir. Donc, effectivement, on paierait au poids de sa poubelle. Peut-être.
Ça se fait déjà depuis très longtemps ailleurs. Depuis plusieurs décennies.
Ça fonctionne très bien.
Et ça fonctionne très bien. Mais le truc, c'est que dès qu'on commence à bouger un peu les choses et sortir les gens de leurs habitudes.
Ah, il y a des gens, ça les met en colère.
Oui, parce que ils vivent ça comme une contrainte. En fait, terrible, et on a touché à des choses qui leur font peur. Donc, mon positionnement, moi, je trouve ça très bien. Franchement, un repas végétarien par semaine, c'est très bien.
Ok.
Pourquoi tu me poses la question à moi ?
Parce que ça n'a rien à voir. Parce que, je sais pas, tu mets de la force en général, tu tapes du poing sur la table, mais vous êtes des couillons, c'est rien de grave. Là, tu l'as fait de manière modérée.
Ouais, je suis un peu trop soft là. Bon,
oui,
repose-moi la question.
Sinon, je pense que tu es la bonne personne, Delphine, à qui poser cette question. Tu as entendu parler de ce repas végétarien une fois par semaine, imposé dans les écoles, dans la restauration collective scolaire. Tu as une petite idée sur le truc ou pas du tout ?
Ah, mais moi, je trouve ça très, très bien, c'est un peu trop, j'ai un peu trop exagéré.
Mais évidemment
que c'est bien, enfin, quand même. Faut arrêter de se gaver de barbac, de poissons pollués.
Ouais, faudrait que tu mettes un peu de maïté, là, je pense, pour donner, tu vois, sans vouloir te coacher, mais je pense qu'il faudrait que
Moi, j'ai du mal à me mettre dans la peau de maïté s'il n'y a pas l'anguille, avec un sommet et tout. Faut que je sois dans un certain contexte, en fait, pour laisser venir le personnage.
J'entends. Le foie gras, qu'est-ce qu'on peut rajouter en conclusion?
Évidemment, il y a, par exemple, on parlait il y a très peu de temps
du
cordyceps.
Coq à l'âne dans ce rendez-vous,
on parlait du cordyceps il y a très peu de temps.
Oui.
Le cordyceps, ça, c'est champignon, médicinal, qui est connu pour en particulier son action sur la vitalité en général. Mais il a une vraie action aussi sur la stéatose hépatique. Donc ça peut aussi, en complément en fait d'une alimentation qui va être complètement bouleversée ou d'un mode de vie même qui peut être complètement bouleversé si on a le foie trop gras, c'est-à-dire si on est trop sédentaire, si on est trop stressé, si on a une alimentation trop riche en sucre, effectivement tout ça c'est des paramètres qu'il faut absolument changer. Mais on peut aussi évidemment prendre des plantes à côté pour régénérer le foie. Donc il y a le chardon-marie, il y a la fumeterre que j'aime beaucoup.
Ah mince, comment il s'appelle, le desmodium?
Oui, exactement. Non. Et il va y avoir aussi, le cordyceps qui lui a une action spécifique justement sur la stéatose hépatique. Voilà.
Comme par hasard.
Donc, après, il y a nombre d'ouvrages qui sortent. Ils appellent ça le régime Nash. En fait, vraiment pour trouver en fait des recettes et une alimentation qui soit adaptée pour dégraisser ce foie. On va dégraisser le foie. Et en plus, ça veut pas dire on peut avoir un gros foie. Foie gras et être en surpoids. C'est surtout ça. C'est-à-dire que c'est un petit peu insidieux. Voilà. Donc il faut se surveiller et savoir que c'est quand même pas anodin. Si on vous a dit que vous aviez un foie gras, faites ce qu'il faut quand même.
Faut le savoir quand même, le foie gras. C'est comme tu nous le disais, on peut pas le détecter comme ça. Si? Non? Non, pas trop quand même.
Oui,
qui peut dire ça, quoi? C'est trop tard.
Un petit peu le médecin, quand même, un petit peu.
Ah bon,
quand même,
C'est son métier.
Ouais, quand même, un petit peu.
Bon, d'accord.
Et savoir que, après basculer vers du diabète, là, par contre, c'est effectivement la porte ouverte à.
Toutes les fenêtres.
Exactement. Les trous dans le toit.
Et alors, donc, dans le contexte, bah voilà, merci, c'était le foie, le gros foie, donc, aujourd'hui.
La stéatose hépatique.
La stéatose hépatique.
Le foie gras.
Le foie gras. La semaine prochaine, c'est la dernière de la saison. Tu essayes de faire un truc un peu bien ou pour tenter de bien terminer cette
Alors, ça t'aurait envie qu'on parle de quoi?
De rien du tout. Mais si, j'avais passé une commande, je crois.
Mais je m'en rappelle plus.
Moi non plus. Ce que tu veux, ou deux saisons ou non, un truc un peu bien, quand même. Oh, des produits chouchous, ça faisait longtemps que tu n'avais pas fait ça.
Les produits chouchous.
Non, mais pour les fêtes de fin d'année, du chocolat, du champagne, du truc, des machins, des huîtres. Non, t'as raison, c'est pas bien.
Mais c'est bien, là, on a parlé du foie gras.
Oui, c'est bien. Oui, c'est raccord avec la période.
Et ça, c'est d'ailleurs chez les enfants aussi.
Oui. Un petit dicton, si t'as le foie gras, prends garde à toi.
Ouh, c'est beau ça.
Ça va?
Ah ouais, c'est beau.
D'accord, on garde. Eh bien, la semaine prochaine, on verra bien. Surprise. Une belle semaine.
Ça, c'est du suspense.
Excellente journée. À la semaine prochaine, Delphine. Bise. Ciao.
Ciao.
CFM. Le mag. Tous les jours. 12h. 12h30. En Aveyron. CFM. 107.9 et 90.2.